pardonnez ma voix, qui de temps en temps part comme ça, et qui revient. Alors je vous invite, sans plus tarder, à ouvrir vos Bibles. Je vous propose la lecture d'un texte dans l'Évangile de Luc, au chapitre 9, à partir du verset 57 à 62. Luc, chapitre 9, verset 57 à 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme vint dire à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit : « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit à lui où prendre du repos. » Jésus dit à un autre : « Suis-moi. » Mais cet homme lui dit : « Seigneur, permets que j'aille d'abord enterrer mon père. » Jésus lui répondit : « Laisse aux morts le soin d'enterrer leurs morts. Quant à toi, va proclamer le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de faire mes adieux à ma famille. » Jésus lui répondit : « Celui qui, au moment où il se met à labourer avec sa charrue, regarde en arrière, n'est pas prêt pour le service de Dieu. » Que le Seigneur bénisse pour nous la lecture de sa parole. Suis-moi. Cet impératif qui est au cœur de ce passage retentit plus d'une fois dans les évangiles. Jésus l'a, par exemple, dit à Lévi, le collecteur d'impôts, plus connu sous le nom de Matthieu. Jésus lui a demandé de le suivre pour qu'il devienne son disciple. Et puis Jésus l'a lancé à Pierre, à André, qui, de simples pêcheurs, deviendront pêcheurs d'hommes. Ce « suis-moi », Jésus l'a encore adressé au jeune homme riche, qui ne pourra y répondre tant l'exigence de Jésus est forte. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Cette façon qu'a Jésus d'inviter à croire en lui fait réfléchir. Jésus ne se contente pas seulement de confession orale. Il veut aussi des actes concrets d'obéissance. Répondre à son invitation, c'est dépasser l'acquiescement verbal pour aller jusqu'à l'engagement de sa vie. Et c'est bien là l'essence même de la foi. La foi, ce n'est pas simplement un discours. Mais la foi, c'est la transformation de notre existence. En regroupant trois situations distinctes d'hommes qui veulent suivre Jésus, l'évangéliste Luc nous invite à méditer la radicalité de cet appel et aussi la possibilité pour nous d'y répondre. un examen attentif du passage permet de caractériser chacun des personnages par un substantif. Au premier, la prétention. La prétention du « je te suivrai partout ». Partout où tu iras, je serai derrière toi. Au second, l'hésitation. Je te suivrai, mais permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Et au troisième, la condition. Je te suivrai, mais... Le prétentieux reçoit ce qu'on appelle une douche écossaise. Je ne sais pas si vous êtes allé en Écosse, je suis allé l'année dernière. D'un seul coup, vous avez des tonnes d'eau qui vous tombent dessus, et puis sans vous en être aperçu, le soleil est revenu. On appelle ça des douches écossaises. Le prétentieux, lui, reçoit une douche écossaise qui peut, je le crois, s'entendre comme un refus du Seigneur. Mais refus de quoi, au juste ? Refus d'une pieuse illusion qui consiste à croire qu'il suffit de vouloir pour pouvoir. D'une profonde ignorance qui méconnaît les dangers de l'itinéraire que va emprunter le Seigneur. Et c'est en tout cas sur ce thème-là que réagit Jésus. Tu ne sais pas où je vais. Tu ne connais même pas l'inconfort de ma situation. Et par cette parole étrange, le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Il faut entendre plus qu'un constat d'itinérance. Il faut entendre une situation de danger où l'on peut lire a posteriori la torture, la mort, la crucifixion. Et ce danger-là, personne ne pourra l'assumer à la place du Christ. Personne ne pourra même les suivre. Pensez, si vous le voulez bien, un instant à la prétention de Pierre, qui est vite démenti par son triple reniement. Et non seulement personne ne le pourra, mais personne ne le devra, car Jésus s'est substitué aux siens, à tous les siens, en subissant seul l'horreur de la crucifixion. Oui, nous sommes ici en face d'une prétention orgueilleuse, d'une prétention pécheresse que Jésus repousse. Ici, il n'y a pas de place pour nos trompeuses certitudes sur le chemin qu'ouvre le Christ. Laisse-moi d'abord prendre congé des miens. C'est notre troisième homme. Lui ne semble pas avoir la prétention du premier, car certes, il affirme clairement sa volonté de suivre le Christ, mais il pose une condition à son obéissance. Et au premier abord, il me semble que la demande peut nous paraître légitime. Et pourtant, Jésus ne la reçoit pas favorablement. Que faut-il comprendre ? Et bien probablement que cette demande est ambiguë. L'homme a bien perçu l'exigence radicale de l'enseignement de Jésus et il tente de le repousser en invoquant une excuse. La tournure de la phrase en grec peut vouloir dire, et c'est une façon de le dire au Christ, « Oui Seigneur, je veux bien te suivre, mais pas tout de suite. Laisse-moi encore décider seul, une dernière fois, de ce que j'ai envie de faire. » Plus ou moins consciemment, notre homme pourrait cacher de cette façon soit le besoin qu'il a d'être approuvé par les siens, avant de partir à l'aventure, soit la crainte que nous pouvons tous avoir, que tu peux peut-être avoir ce matin, d'abandonner à Christ les rênes de ta vie, de ton existence. En tout cas, ce qui est sûr dans notre texte, pour notre troisième personnage, c'est que Jésus débusque un mauvais prétexte, un regard en arrière qui est coupable. Et son avertissement aux accents agricoles est vraiment très intéressant. Mettre la main à la charrue et regarder en arrière. Ça nous ramène, me semble-t-il, à une réalité simple, mais à une réalité qui est une réalité exigeante. Suivre Jésus ne se fait pas par étapes. Oui, maintenant avec ma bouche, mais attends demain pour le reste. Le suivre ne se fait pas non plus en ménageant, si vous me permettez l'expression, la chèvre et le chou. Oui, ici et maintenant pour lui plaire le dimanche, parce que le dimanche, c'est quand même important. Et puis, non, demain, pour ne pas déplaire à un environnement indifférent, pour ne pas déplaire à un environnement hostile. Alors oui, je veux bien être chrétien le dimanche, mais en tout cas pas les autres jours de la semaine. Le suivre, et il est bon de nous le rappeler, frères et sœurs, ne se fait pas enfin selon nos conditions à nous. Oui, Seigneur, je veux bien te suivre. Et je prends la décision de te suivre jusque-là, mais pas plus loin. Tu sais, il y a des domaines dans ma vie qui sont privés. Ils m'appartiennent à moi. Et ça, t'as pas à rentrer dans cette zone-là. Et Jésus repousse ainsi avec douceur, mais aussi avec fermeté, les conditions que nous sommes tentés de lui imposer dans notre marche à sa suite. Alors j'ai laissé à dessein le deuxième homme pour la fin, parce qu'il s'agit ici de la situation, à mon avis, qui est la plus complexe et aussi la plus riche d'enseignements. Contrairement aux deux autres hommes qui semblent s'être proposés spontanément pour suivre Jésus, celui-ci est appelé par le Christ lui-même. Permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Moi, j'interprète cette réponse comme une forme d'hésitation. Je comprends d'autant mieux sa demande qu'en semblable circonstance, il me semble que je l'aurais fait mienne. Comment tout lâcher subitement alors que le deuil vient de frapper notre famille proche? Et j'avoue, parce qu'il faut être honnête, l'hypocrisie n'a pas sa place ici. J'avoue, rester interloqué devant l'exigence réitérée du Seigneur. Laisse les morts enterrer leurs morts. Alors, je voudrais, pendant les quelques secondes qui me sont imparties, dépasser cette première réaction et je voudrais que nous essayions ensemble de faire la part des choses. Selon les commentateurs de ce texte, aller d'abord ensevelir son père peut s'entendre dans le judaïsme de trois manières différentes. Premièrement, il pourrait s'agir d'un décès qui vient d'avoir lieu. Et donc, comme c'est coutume en Israël, d'enterrer la personne le jour même. Deuxièmement, ce serait une façon de demander à Jésus l'autorisation de rester auprès de son père âgé jusqu'à ce que celui-ci meure. Le problème ici, c'est que le délai d'attente peut être long, en tout cas incertain. D'où l'exigence de Jésus pour une obéissance immédiate. La troisième solution ferait référence à cette cérémonie funéraire que nous ne connaissons pas, nous, ici dans nos pays occidentaux, qui n'existe plus en Israël aujourd'hui, mais qui, je le rappelle, existait au temps de Jésus. Elle fait référence à la cérémonie funéraire qui prenait place un an, jour pour jour, après l'ensevelissement, où on déterrait les os qui étaient débarrassés des chairs pour les placer dans un caveau familial. Et cette interprétation, qui est la troisième, nous aiderait à comprendre l'impératif de Jésus. Laisse les morts enterrer leurs morts. C'est une expression qui est en lien avec l'impureté rituelle qu'il y avait, vous le savez, à toucher un cadavre. Ceci étant dit, quelle que soit l'interprétation, quelle que soit l'hypothèse retenue, pour moi, comme pour vous, le problème reste entier. La réponse de Jésus est une réponse qui me fait frémir. Je voudrais essayer toutefois de la comprendre. Cela signifie que la décision à prendre a plus d'importance que ce qui est universellement considéré comme sacré parmi les hommes, à savoir les rites funéraires. C'est dire si la décision proposée par Jésus est impérative. Cela implique aussi que le monde que cet homme va laisser derrière lui est voué à la mort et ne changera pas. Il est donc invité à le laisser à sa mort pour embrasser la vie, la vraie, suivre le Christ. C'est dire le jugement du monde, qui est un jugement absolu, Cela veut dire enfin que le plus proche des proches dans l'ordre de l'autorité, son propre père, vient désormais après Jésus. Et l'on croit entendre ici ces paroles difficiles, ces paroles que nous avons bien du mal à comprendre, ces paroles que si nous plaçons en dehors du contexte, nous arrivons à en faire des paroles dures et qui disent n'importe quoi. Celui qui vient à ma suite, dit Jésus, doit m'aimer plus que son père, plus que sa mère, plus que sa femme. C'est dire la transformation du disciple de Christ qui est appelé à être total. Alors, j'ai beau retourner cette affirmation de Jésus dans tous les sens, je ne vois aucun moyen d'atténuer sa portée et surtout sa radicalité. Suivre Jésus, c'est à mon avis changer complètement de perspective. C'est engager notre vie entière, non plus sous notre autorité, mais sur son autorité à lui. Et c'est bien ce que dit Paul. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et je sais qu'il y a autant de dangers à rajouter qu'à retrancher, mais si vous me permettez ce matin, et vous ne le direz à personne, je me permettrai de rajouter un mot. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. C'est saluer en Jésus notre Seigneur et notre Maître. Il me reste à répondre à cette question et j'en ai terminé. Mais qui donc peut répondre à un tel appel ? Qui donc peut répondre à une telle exigence ? C'est là, me semble-t-il, que la concomitance des trois situations est précieuse. Avez-vous remarqué que l'appel de Jésus n'est pas pour celui qui a la prétention de pouvoir obéir, ni pour celui qui voudrait y mettre ses conditions? Absolument pas. L'appel de Jésus, elle est pour l'hésitant, qui n'est pas certain de pouvoir répondre. Et c'est pour moi, frères et sœurs, une très très belle illustration de la grâce. Cette grâce que le Christ offre aux hommes et aux femmes. L'appel est si radical qu'il n'est accessible qu'à ceux qui se savent incapables et qui offrent au Christ leur impossibilité, qu'elle soit faite d'hésitation paralysante, d'attachement coupable ou même de profond désespoir. Serais-je capable, Seigneur, de te suivre ? Je me souviens à ma consécration pastorale, quand les pasteurs ont prié pour moi, ma famille et maman m'ont entouré dans leurs bras. Et je me souviens que dans les bras de ma mère, j'ai pleuré. Et je revois ma mère me dire, mais pourquoi tu pleures, mon chéri ? Et j'entends encore ma réponse. Maman, je me sens incapable d'exercer le ministère auquel je suis appelé. Et je me souviendrai toujours de la réponse de maman. La grâce de Dieu te suffira, mon fils. Il se peut que cet ordre de Jésus, suis-moi, résonne ce matin à ton oreille comme une exigence tyrannique. Qu'elle représente à tes yeux un risque de tyrannie. C'est vrai que certains aspects de l'histoire de l'Église ont de quoi nourrir nos craintes. Pourtant, j'aimerais t'inviter, mon frère, t'inviter, ma sœur, à considérer le caractère unique de cet appel. D'abord parce que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il s'est donné pour toi, qu'il a enduré la mort pour toi. Et en quelque sorte, je pourrais dire, si tu me le permets, il a donc gagné le droit de ton rachat. Et tu peux sans crainte, le suivre. Parce que celui qui t'a appelé est plus fort que celui qui essaie de te retenir. Mais j'aimerais aussi te dire que c'est un appel unique. Parce que nul ne peut prétendre ici-bas, même de façon dérivée, exiger cette obéissance. Personne n'a le droit de t'obliger, même le pasteur. Que ce soit Emmanuel ou que ce soit Jean-Claude. Le pasteur ou berger de la communauté ne peut en aucun cas y prétendre, car son rôle n'est pas de te dominer, mais de te renvoyer au bon berger, qu'est Jésus. Et ce qui, dans ce texte, prouve que le joug du Christ est doux et léger, c'est qu'il n'enferme pas l'homme qu'il suivrait dans une obéissance infantilisante, mais il lui donne une mission qui est gratifiante, en disant « Va, va sur les routes d'Ozoir, va sur les routes de Seine-et-Marne, annoncer le royaume de Dieu. » Et je vois, moi, dans cette façon de procéder, une expression de l'amour du Christ qui élève son disciple en responsabilité. Je peux témoigner qu'aller annoncer le royaume de Dieu est l'aventure la plus belle qu'un homme et qu'une femme puissent vivre, même si ce n'est pas toujours de tout repos. Croire en Jésus-Christ, c'est marcher à sa suite. Alors je te dis, mon frère, je te dis, ma sœur, avec tout l'amour que j'ai pour toi, poursuis ta route, toi qui le connais. Poursuis ta route, toi qui l'aimes. Quant aux autres, je n'ai qu'une chose à vous dire. Christ vous appelle. Est-ce que tu es capable de l'entendre ce matin te dire, toi, toi, pas ton voisin, pas ta voisine, toi, suis-moi.